Depuis Strasbourg, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, et oui, en effet, c'est une nouvelle édition spéciale que nous vous proposons jusqu'à 14h en direct de Strasbourg, près de deux jours après l'attentat. Bilan revu à la hausse, c'est une des informations de la matinée. 3 morts, 13 blessés, 5 personnes grièvement, voire très grièvement touchées. Le suspect numéro 1 a désormais un nom, Shérif Shekat, appel à témoins lancé. Nous ferons le point de l'enquête, toujours pas de traces, un frère suivi en Allemagne. Le marché de Noël, toujours fermé, mais c'est aussi et surtout le pouls d'une ville que nous prendrons jusqu'à 14h.
Moi, j'ai ma fille qui a été traumatisée, qui s'est dit on a échappé à la mort. Ils avaient besoin de parler, mes enfants, en fait.
Il y en a assez de ce genre de bêtises. C'est affreux, c'est insupportable.
Il y a quand même une très grande colère, il y a un gros problème.
Voilà quelques échos des reportages que vous entendrez dans cette édition spéciale et les questions qui se posent. La sécurité du marché de Noël, un tueur en fuite, que disent les commerçants? Comment venir en aide aux victimes? La solidarité, l'Alsace et Strasbourg aussi, mauvaise réputation. Comment prévenir la radicalisation? La parole aux artistes également. Strasbourg après l'attaque, nous sommes en édition spéciale dans les locaux de France Bleu Alsace avec nos très nombreux invités jusqu'à 14h. Les autres titres, les gilets jaunes, manifestés ou pas après l'attentat, le gouvernement leur demande de ne pas descendre. Emmanuel Macron, en pleine tempête sociale en France, y arrive affaibli. Quand le rugby tue, un jeune joueur du Stade français est mort après un plaquage, un neurochirurgien sonne l'alarme. Et puis le cannabis, faut-il l'utiliser pour soigner, soulager les malades? Oui, disent des experts. La météo, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Quelle est la tendance, Jean-Pierre?
Alors pour aujourd'hui, le soleil va briller généreusement de la Normandie à la région Centre et de l'Île-de-France à la Bourgogne et du Nord-Pas-de-Calais à la région Champagne-Ardenne. À noter encore beaucoup de nuages vers l'Alsace cet après-midi, apportant par moments quelques flocons de neige. En revanche, prévoyez de la pluie dans l'ouest, le sud-ouest et le sud. Et puis une évolution du temps en Alsace demain. Et ce week-end, à demain matin, prévoyez moins 2 degrés à Strasbourg sous un ciel très nuageux. On attend d'assez belles éclaircies l'après-midi. Samedi sera la journée la plus froide et sans dégel, hein, avec moins 5 degrés à Strasbourg au lever du jour et moins 1 degré au maximum. En revanche, le soleil sera au programme de la journée avant une dégradation pluvieuse dimanche.
Et oui, décalage car vous êtes en direct de Paris et nous sommes à Strasbourg. À Strasbourg jusqu'à 14h, soyez les bienvenus. Et après l'attaque de mardi soir, la ville est encore groggy.
Ça fait bizarre de voir Strasbourg comme ça, surtout pendant la période de Noël où il y a plein de touristes. C'est un peu triste de voir Strasbourg comme ça et bon, on espère que ça ira et qu'il n'y aura pas un surattentat.
Ça, c'est une inquiétude pour vous?
Ouais, parce que je trouve qu'on ne sait pas beaucoup de choses comparé aux autres attentats. Par exemple, au Bataclan et tout, on a tout de suite... relier plusieurs informations, plusieurs complices. Là, on sait vraiment peu de choses et moi, ça m'inquiète, ouais. C'est au final, on vit dans une période où on ne sait pas ce qui se passe exactement et ça, c'est un peu flippant.
Elle s'appelle Alice, elle est au micro d'Angélique Bouin qui sillonne les rues de Strasbourg depuis mardi soir et elle dit bien au fond le climat qui règne dans la ville aujourd'hui encore, trop de mauvais souvenirs, trop de silence après le chaos, trop d'incertitudes et ce tueur grandit dans les rues de la ville qui est toujours en fuite. Bonjour Céline Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef ici à France Bleu Alsace. Céline, merci de nous accueillir d'abord.
Merci à vous.
Et une image pour commencer, un mot, un détail, une parole que vous gardez de ces dernières heures.
Moi le mot que je prononcerais c'est désert. Voir Strasbourg désert après l'attentat, on l'entendait hein, d'ailleurs dans l'interview que vous venez d'entendre sur France Inter, c'est vraiment une période de fête Strasbourg, une période joyeuse et là il n'y a plus rien, c'est désert, c'est calme, on n'entend pas un bruit à part de temps en temps les sirènes des policiers ou des pompiers, mais c'est vraiment ce désert, ce climat de calme qui règne dans la ville qui est vraiment très très étonnant et surprenant à cette période.
Céline, vous êtes à mes côtés jusqu'à 14h pour nous aider à raconter cette ville. Bonjour Alain Fontanel.
Bonjour.
Premier adjoint à la mairie, même question, un souvenir, un détail, une mot. Un mot.
Alors je vais tricher parce que j'en ai deux qui symbolisent bien pour moi...
On a le droit de tricher aujourd'hui.
Ce que l'on vient de vivre. La première image, d'abord c'est un corps au sol de deux personnes qui prodiguent un massage cardiaque et qui essayent de sauver cette personne qui venait d'être attaquée. Et malheureusement, la personne est décédée. Et puis, au contraire, c'est des gens qui se croisent dans la rue, qui se serrent la main, qui s'embrassent, qui se connaissent pas, mais ce besoin de partager une émotion.
Et cette solidarité des taxis, vous nous raconterez ça tout à l'heure. Céline Rousseau, bonjour Pierre Bardet.
Bonjour.
Vous dirigez l'association de commerçants Les Vitrines de Strasbourg. Vous êtes l'un des principaux animateurs du marché de Noël. La même question qu'aux autres, un souvenir?
Écoutez, j'habite au centre-ville. En allant à mon bureau, c'est la sidération.
Oui.
Ce silence pesant. ses yeux embués de d'émotion.
Oui.
Et ces gens qui se serrent dans, je suis désolé, qui se serrent dans les bras et qui pleurent, et les commerçants entre eux et le public entre eux. Il y avait quelque chose de très fort hier matin.
Et Alain Fontanelle nous disait hors micro que voilà, les émotions sont à vif parce qu'il y a la fatigue des heures accumulées qui ressort. Alors Angélique, on vient d'entendre Alice à votre micro, Angélique. Bon, il y a une seconde. Vous êtes retournée place Kléber ce matin pour voilà faire le récit de cette ville aujourd'hui.
Oui, place où s'est improvisé un mémorial au pied de la statue. Une place, on vient de le dire, un quasi vide. Le marché de Noël est toujours fermé. Aujourd'hui, le pas des gens est le plus souvent pressé. Les regards sont tristes à la vue des volets baissés des petits chalets de bois. De retour du collège avec un copain, Mohamed, 15 ans, s'arrête net devant les bougies. Il était dans une rue voisine au moment de l'attaque. À l'évocation du tueur toujours recherché, sa gorge se noue.
Ah ben, moi, ça me blesse parce que vu que j'étais pas loin en plus, ben, du coup, j'ai eu quelques larmes qui se sont versées quoi, tout seul. Ben, en fait, j'étais vraiment pas loin, juste à côté du coup de feu. Et quand je l'ai entendu, ben, au début j'étais pétrifié de peur, j'ai pas réussi à bouger. Et je vois une personne qui est morte et une autre qui est en hémorragie à cause de plusieurs balles. Ben, j'ai peur maintenant.
Salima avoue elle aussi sa terreur, et cela malgré les patrouilles très régulières qu'elle croise en allant travailler.
On doit rester vigilant, on doit faire attention à ce qui se passe autour de nous. Et enfin, je sais pas, moi quand je sors dehors de chez moi, enfin, j'ai peur quoi. Enfin, je me sens pas bien. Même quand je vais au travail, franchement, je panique.
On serait rassuré si Shérif Kéchekat était sous les verrous, acquiesce une dame à ses côtés, encore très interdite hein, par cette attaque dans un secteur, on l'a dit, si protégé.
Ouais, on avait pas mal de sécurité, bien sûr. Mais bon, ça fait des années qu'on s'y attendait quand même. Hein. Mais bon, chose pas normale qu'il est toujours en liberté, quoi, qu'ils n'ont pas réussi à le choper. Quoi.
Avec leur valise à roulettes, un groupe de 4 collègues détonne un peu. Ils arrivent de Nantes ce matin en séminaire, comme chaque année en décembre, mais cette fois-ci avec des consignes.
Bah, de faire attention dans nos déplacements. Après, on sait que la ville, elle est quand même bien sécurisée. Il y a quand même beaucoup de militaires donc nous, on est quand même assez serein.
Mais ce soir, nous éviterons de traîner dans le quartier, ajouté Adrien, dépité par ce spectacle d'une place d'habitude si joyeuse et aujourd'hui, Bruno, endeuillé.
Merci Angélique Bois, une cérémonie œcuménique prévue à la cathédrale tout à l'heure. Nous faisons le point de l'enquête avant de revenir à ce récit de la ville. Le point de l'enquête, les informations de la matinée, c'est un bilan hélas revu à la hausse. 3 morts, une 4e personne en état de mort cérébrale, 12 autres blessés. Depuis hier, un appel à témoins circule avec l'identité. Shérif Kéchekat, son visage, pommade, corpulence normale, 1m80, marque sur le front. Individu dangereux, dit l'appel à témoins, n'intervenez pas vous-même. Emmanuel Leclerc, vous êtes à Paris, service police justice de France Inter, toujours aucune trace hein, de Shérif Kéchekat.
Ah, officiellement aucune, Bruno, en tout cas, sachant qu'une centaine d'agents de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire sont chargés d'étudier le moindre indice relevé sur le parcours meurtrier de l'homme le plus recherché de France, qu'il faut traiter maintenant les suites de l'appel à témoins lancé hier soir. Des enquêteurs qui veulent depuis le départ savoir si Shérif Kéchekat est resté dans une cache, un appartement ou une cave d'un quartier qu'il connaît parfaitement, hébergé par d'éventuels complices. Ou est-ce qu'il a été récupéré en voiture mardi soir par un ou une complice, auquel cas il pourrait être loin de Strasbourg ce matin. Cela signifie dénicher d'éventuelles lignes de téléphone portable cachées, comme savent s'en procurer les braqueurs chevronnés, et qu'il aurait pu utiliser depuis le début de sa cavale, qui a commencé, je vous le rappelle, en réalité mardi matin, quand des gendarmes de la section de recherche de Strasbourg venaient à son domicile pour l'arrêter dans une affaire de tentative d'homicide. L'objectif est donc de remonter, avec l'analyse de la vidéosurveillance, notamment le parcours du suspect, de savoir s'il est en Allemagne, par exemple. Plusieurs membres de sa famille ont été placés, on le sait, en garde à vue, ainsi que 2 proches. Le résultat de ces auditions pourrait être également déterminant dans l'issue de cette chasse à l'homme.
4 proches en garde à vue en tout, Emmanuel. Hein. Les parents de Shérif Kéchekat, 2 frères dont l'un évolue dans les milieux salafistes de Strasbourg. Et puis il y a cet autre frère qui est, comme disent les policiers, traité en Allemagne.
Oui, il s'agit de Samy, mais pour l'instant, donc effectivement, de sources proches de l'enquête, on sait qu'un service étranger a traité cet individu, ce suspect. Mais pour l'instant, officiellement du côté français, il n'y a pas eu de placement en garde à vue.
Alain Fontanelle, vous qui êtes premier adjoint au maire de Strasbourg, alors vous n'allez pas nous donner les détails de l'enquête. Est-ce que, en revanche, vous pouvez nous dire s'il y a une coopération très étroite, une tenue d'information très stricte entre ce qui se passe à Paris, ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe éventuellement à l'étranger? Est-ce que l'information circule?
Oui, effectivement, je ne vous donnerai pas les détails de l'enquête pour une raison simple, je ne les connais pas. Et c'est normal, il y a toute une procédure et un secret de l'enquête à respecter par souci d'efficacité. Mais nous sommes effectivement en étroite coordination à la fois entre les différents services français, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, la préfecture ici, et bien sûr la ville, l'Eurométropole et aussi les autres collectivités. Et puis il y a un travail très très serré, le procureur en parlait lorsqu'il était à Strasbourg hier, avec les autorités allemandes.
Céline Rousseau, il y a un aspect dont il faut tenir compte, c'est le fait qu'on ne sait pas où est Chérif Chekat, et que potentiellement dans l'esprit des Strasbourgeois, on est obligé d'en parler, obligé d'y penser.
Oui, et puis on sent très clairement encore ce matin une psychose qui se développe dans la ville. Les policiers d'ailleurs nous ont demandé de relayer un message à l'antenne en expliquant qu'il ne fallait pas donner de fausses informations, notamment sur les réseaux sociaux. Il y en a eu énormément ce matin. On parlait de fusillades dans certains quartiers de Strasbourg. Tout cela est faux. Il faut évidemment se fier aux informations qui sont données par les autorités, par la préfecture, par la police et sur les antennes de Radio France, notamment en local sur France Bleu Alsace. Il ne se passe rien pour le moment à Strasbourg, mais c'est sûr qu'on sent vraiment une psychose dans les quartiers. Est-ce que j'emmène mon enfant à l'école? Est-ce que je vais travailler ce matin? Qu'est-ce qu'on fait? On le sent énormément. Oui.
Combien de policiers dans les rues, Alain Fontanel?
Il y a plusieurs centaines qui sont actuellement dans les rues. D'abord des forces de la police nationale, mais aussi bien sûr la police municipale. Et puis, il y a l'armée avec Sentinelle qui a été renforcée depuis hier et c'est ce que le ministre de l'Intérieur nous a confirmé quand il était là.
Alors continuons sur l'enquête, l'aspect police-justice qui nous emmène à l'étranger. Chérif Chekat, 29 ans, 27 condamnations au casier judiciaire et des méfaits en Allemagne. Ludovic Piétenu, le correspondant de France Inter en Allemagne, a rencontré l'avocat de Chérif Chekat.
Pour les autorités françaises, Chérif Chekat est considéré comme radicalisé, surveillé et fiché début 2015. Un an plus tard, il se fait arrêter pour 2 cambriolages en Allemagne, quelques milliers d'euros dérobés dans un cabinet dentaire et une pharmacie. Les autorités allemandes, aussi bien que son avocat Thomas Röder, ne vont déceler aucun signe de radicalisation.
C'était un garçon très sympathique, très occidental dans sa façon de penser, faisant des blagues à tout le monde. Je ne peux pas dire qu'il était radicalisé. La seule chose qu'il m'ait dit au sujet de l'islam, c'était qu'il ne buvait jamais d'alcool, qu'il ne prenait jamais de drogue et qu'il ne voulait pas manger de porc en prison. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un garçon radicalisé. Mais je dois dire que je ne l'ai rencontré que 3 fois. Des entretiens entre une demi-heure et une heure. Sans doute a-t-il caché son jeu à cette époque.
Les autorités allemandes n'ont jamais rien décelé à sa sortie de prison outre-Rhin le 27 février 2017, selon les informations du Spiegel. Avant d'être expulsé vers la France, Chérif Chekat sera décrit uniquement par un officiel comme ayant une forte énergie criminelle motivée, je cite, par la recherche impitoyable du profit. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Alain Fontanel, on entend ce que nous dit Ludovic Piétenu, les autorités allemandes n'avaient rien vu, les autorités françaises non plus. Question importante pour les gens qui nous écoutent à la mairie, les principaux responsables comme vous, de quels outils disposez-vous pour suivre les personnes qui sont fichées S, qui sont potentiellement radicalisées? Comment ça marche?
Nous ne disposons pas de la liste des personnes fichées S.
Est-ce que vous aimeriez la voir?
C'est un débat. D'abord, quel est le statut d'une personne fichée S aujourd'hui? Une fois qu'on a l'information, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que ça serait un moyen pour l'État de dire, maintenant que la ville le sait, c'est plus notre problème, c'est celui de la ville? Si c'est ça, évidemment, ce n'est pas intéressant. Est-ce que c'est un moyen d'agir de manière unilatérale hors justice contre quelqu'un qui est fiché S et qui ne le sait même pas lui-même? C'est aussi un problème en matière démocratique et de droits de l'homme. En même temps, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une vraie interrogation sur les moyens dont dispose l'État pour suivre des personnes que l'État a lui-même identifiées comme dangereuses. Si ces personnes ont été identifiées comme dangereuses, la question se pose de savoir quels moyens l'État se donne, éventuellement en lien avec les collectivités locales, pour empêcher ces personnes de nuire à la société.
Et votre réponse, c'est quoi? C'est plus d'hommes sur le terrain?
Bien sûr, c'est d'abord une question de moyens humains. Il y a les moyens technologiques, mais les moyens technologiques sans les femmes et les hommes, cela ne sert à rien. Et donc, la question du renforcement de notre dispositif de sécurité, là je ne parle plus de Strasbourg, je parle de notre pays qui est soumis à l'attaque terroriste, la question des moyens de sécurité se pose.
Mathilde Dehimi, vous êtes avec nous et vous êtes à Strasbourg depuis le début de cette attaque pour enquêter, sillonner, rencontrer les gens. On le dit, on le répète, ce shérif Chekat, il a grandi, il a vécu à Strasbourg. Il habitait parc des Poteries à Königshofen et avant toute son enfance dans le quartier du Neudorf, quartier relativement résidentiel précisément du côté de Schlutfeld. Mathilde, vous êtes retournée dans l'école de Schlutfeld.
Oui, et ce matin, les parents ont peut-être un peu plus que d'habitude traîné devant l'école. Quelques mots à la directrice. On se raconte aussi la fusillade juste un peu plus haut dans la rue entre le tireur et les policiers dans les premières minutes de sa fuite. Jamel laisse ses enfants, 8 ans, 4 ans, avec une pointe d'anxiété.
Ma première surprise, c'est de me demander pourquoi il n'y avait pas plus de présence policière, sachant qu'il y a eu quand même un gros épisode de tension dans le quartier. Mais bon, apparemment, les choses se font de manière, on va dire, moins visible, mais il y a une présence qui nous permet d'être assurés.
Tous les parents ne sont pas venus ce matin. Sophie, elle fait partie des rares qui ont déposé dès hier ses enfants. Il faut parler, les écouter pour pouvoir avancer, dit-elle.
Je me suis dit que de toute façon, il allait entendre des choses par ses copains qui n'allaient peut-être être pas bien expliquées non plus. Voilà. Donc j'ai pris des mots simples, je lui ai expliqué ce qui se passait. Il sait du coup ce qui se passe actuellement, il sait qu'il est toujours en fuite, voilà, il sait qu'il faut être vigilant.
Des parents inquiets de savoir que le tireur n'est pas retrouvé. Sabrina n'arrive pas à lâcher la main de sa fille et finalement se ravise.
Non, elle n'ira pas à l'école aujourd'hui. Elle ira à l'école demain.
Pourquoi Emma n'ira pas à l'école ?
J'ai pas envie de la mettre. J'ai un peu la boule au ventre encore aujourd'hui. Donc elle restera avec moi aujourd'hui.
Malika, elle n'a pas voulu parler à ses enfants de ce qui s'est passé. Elle dormait pendant la fusillade. Elle compte sur l'équipe pédagogique qui va prendre le temps avec les enfants, promet la directrice. Malika est un peu inquiète.
Mais nous, on aurait préféré que l'école soit fermée. Après, on a des obligations, donc il n'y a pas trop le choix. Voilà. Et la vie, il faut qu'elle continue. Hein.
Malika, qui était dans cette même école quand elle était petite, avec dans sa classe Shérif Chekat.
Alain Fontanel, ce choix de laisser les écoles ouvertes, expliquez-le nous, c'est l'idée, la vie continue, on ne va pas tout arrêter, sinon les terroristes auraient gagné.
Oui, effectivement, c'est bien notre société, nos modes de vie, nos modes de divertissement, nos traditions, la tradition de Noël qui sont attaquées. On ne peut pas céder et il fallait prendre des précautions. Il fallait aussi respecter le temps du deuil. C'était la logique de plutôt inciter les parents à ne pas aller à l'école demain, en tous les cas laisser le choix. Mais finalement, quel est le plus beau symbole contre l'obscurantisme, si ce n'est l'instruction ?
Alors Pierre Bardet, vous qui dirigez l'association de commerçants Les Vitrines de Strasbourg, le marché de Noël, quand rouvre-t-il ? Il est toujours fermé. Le maire de Strasbourg voulait qu'il soit rouvert dès hier. Dans la mesure où le tueur est toujours en cours, c'est pas possible. Quand ?
Le maire voulait qu'il soit ouvert, qu'il souhaitait qu'il soit ouvert aujourd'hui. Ouais. Hier, c'était normal qu'il soit fermé, c'était le deuil.
Aujourd'hui,
c'était,
oui, bien sûr.
C'était aujourd'hui qu'il souhaitait peut-être, mais effectivement, le tireur étant toujours, terroriste étant toujours en cours, c'est vrai que ça, c'est une chape de plomb sur Strasbourg qui, et on comprend que si le maire souhaite, peut-être que la préfecture est plus réservée. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vraiment, hier, c'était la journée de deuil, les lumières ont été éteintes. Mmh. Ça, c'était pesant, mais il fallait le faire. Parce que c'était le deuil de la ville de Strasbourg et des Strasbourgeois. Aujourd'hui, les lumières vont se réallumer peu à peu, à part un ou deux symboles. Il faut rallumer la flamme de l'espoir, la flamme de la vie. Et il faut que ce marché de Noël rouvre, si on peut, ce week-end.
Dites-nous ce qu'il représente, ce marché de Noël, dans la ville. Alors évidemment, il y a un aspect économique. Hein. Il y a 2 millions de touristes, c'est
un
ça, Céline ?
Un peu plus de 2 millions de touristes, ouais, l'année dernière.
Le marché, l'économie, je ne voulais pas en parler hier, parce que c'était un choc. On pense d'abord aux victimes, aux morts, comme le disait Alain Fontanel, qui était sur le trottoir, hein, même le sol.
Et ces petits tas de bougies qu'on voit encore.
Ces blessés, aujourd'hui. On voit depuis hier soir ces tas de bougies, ces morceaux de fleurs dans la rue des Orfèvres, et à différents endroits. Donc il y a l'émotion. Parler d'économie est un petit peu difficile, mais il va falloir qu'on en parle. Et ce marché de Noël, comme vous me demandiez, c'est l'ADN de Strasbourg. Même en été, quand on vous dit « je suis de Strasbourg », c'est le marché de Noël, parce que c'est magique, c'est une ambiance, c'est spécial. Ce matin, c'était vide quand on marche au milieu des cabanes, c'est pesant, mais c'est vraiment un partage. Ce marché de Noël, en plus, il est de plus en plus authentique. Avec le premier adjoint, on le soigne, vous voyez, pour garder l'authenticité. Et c'est vrai que les gens, quand ils viennent, ils disent, mais on n'a jamais vu ça au monde. Et on émerveille les yeux des passants. Et là, c'est une chape de plomb qui vient de tomber.
Et il faut toujours le rappeler, ce marché de Noël, il date du Moyen-Âge. Il a été en continu pendant 450 années. Et les seuls qui ont réussi à l'arrêter pendant 2 ans, ce sont les nazis. Et c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a aussi une forme de fierté des Strasbourgeois à résister et à défendre un mode de vie et une histoire et des traditions.
Alors, Céline Rousseau, France Bleu Alsace, vous qui êtes rédactrice en chef ici, il faut aborder la question qui fâche. Ce marché de Noël et l'attaque, l'attentat. Beaucoup de Strasbourgeois se demandaient pas si ça allait arriver, mais quand ça allait arriver.
Même ici, même dans les rédactions, je veux dire, on en parle depuis les attentats de Paris en 2015. Ouais. Évidemment, la sécurité a été nettement renforcée depuis 2015 pour rentrer dans le marché de Noël. On passe des contrôles, c'est évident. Il y a des plots en béton qui sont installés sur l'ensemble des ponts. Vous savez que Strasbourg est entouré d'eau. Ouais. Pour rentrer dans le marché de Noël, il y a tous ces contrôles, il y a ces plots en béton pour éviter l'intrusion notamment d'un camion ou d'une voiture. Donc c'est compliqué. On sait qu'il y a tous ces contrôles. On sait que ils sont importants. On sait que la sécurité est importante. Après, la question peut-être qu'on peut poser aussi à Monsieur Bardet, c'est même s'il rouvre ce marché de Noël cette année, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment les gens auront à cœur de venir? On sait qu'il y a des touristes. Hier, on a fait un reportage là-dessus, qui sont repartis juste après l'attentat. Il y avait un monde fou hier en gare de Strasbourg. Les gens changeaient leurs billets pour fuir en quelque sorte.
Ils partent parce que le marché, c'est une ambiance pesante, le marché est fermé. Il faut montrer que, et on l'a vu, les Strasbourgeois ont fait preuve de solidarité. Les Strasbourgeois sont debout. Ils souhaitent que ce marché rouvre, parce que c'est notre ADN. Il faut que la France et les Strasbourgeois soient debout. Il faut pas donner raison à ces terroristes. Donc il faut l'ouvrir.
Mais est-ce que
ça sera plus jamais comme avant, c'est sûr.
Est-ce que les conditions de sécurité, Pierre Bardet, étaient satisfaisantes selon vous? Est-ce que vous demandez plus de contrôle après? Que dit le commerçant que vous êtes?
Les commerçants et le partage que j'ai avec les commerçants. Ouais. Vous savez, ce qui est très intéressant, c'est que avant, quand on prépare ce marché de Noël, les commerçants et même les habitants, ces mesures de sécurité. Et on leur disait s'il y avait des gens sur le sol. Ils comprenaient pas certaines mesures.
Oui, avant, ils disaient il y a trop de contrôle et maintenant pas assez, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc l'être humain, il est comme ça, mais je crois que jamais, avec un terroriste aussi déterminé, aussi acharné, avec une arme automatique, avec des couteaux énormes, on ne pourra jamais à 100%, quel que ce soit dans le monde entier d'ailleurs.
Alain Fontanel, ok, le risque zéro n'existe pas, évidemment. N'empêche que Chérif Chekat est entré avec une arme à feu, avec une arme blanche.
D'abord,
allez-y.
Il était dans le centre-ville avec une arme à feu et une arme blanche. Quand, comment, pour l'instant, l'enquête le dira.
Ouais, parce qu'il faut peut-être préciser quand même pour l'ensemble des auditeurs que les contrôles au marché de Noël, ils sont en place, c'est-à-dire qu'on est contrôlé entre 11h du matin, parce que seulement entre guillemets entre 11h et 22h. Entre-temps, je pense que n'importe qui peut rentrer avec une arme dans l'hypercentre de Strasbourg.
Bien sûr.
Hier, l'équipe de France Inter, après avoir travaillé pour préparer cette émission, on s'est promené effectivement très librement.
Et oui, aucun dispositif de sécurité n'assure la dimension hermétique d'un centre-ville. Il y a 11 000 personnes qui habitent dans ce périmètre. Il y a plusieurs milliers de personnes qui travaillent. Chaque week-end, pendant le marché de Noël, c'est près de 200 000 personnes qui rentrent. Et donc, c'est un équilibre, un dispositif de sécurité. Vous savez, c'est pas la sécurité qui est fragile, c'est la démocratie qui est fragile. Elle est vulnérable.
Et mais j'imagine quand même, Alain Fontanel, que vous interrogez sur comment ça s'est passé et qu'il y aura peut-être des ajustements.
Oui, et c'est essentiel. Et c'est le travail avec le ministère de l'Intérieur et de la Préfecture. Mais vous savez, c'est important. Il y a que les régimes, les États sécuritaires et totalitaires qui garantissent la sécurité. Les démocraties, elles sont vulnérables. Et c'est un point d'équilibre. Et Pierre Bardet le disait à l'instant, les gens veulent leur liberté. On était accusés il y a quelques jours de porter atteinte aux libertés publiques et individuelles. Aujourd'hui, il y a un débat. Mais c'est légitime. Il y a une colère, il y a une frustration. Et puis, il y a aussi une angoisse. Où est ce terroriste? Quand est-ce qu'il va être attrapé? Et je pense que c'est évidemment ça la priorité aujourd'hui.
On va passer aux autres titres de l'actualité avant de revenir à Strasbourg. Une question à l'adjoint au maire. Que dites-vous aux gilets jaunes ce matin? Vous leur dites ne descendez pas dans la rue, ne manifestez pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans les jours à venir?
À Strasbourg, nous avons une priorité. Elle est double. La traque. Et puis bien sûr, assurer la sécurité des Strasbourgeois. Rien ne doit dévier les forces de sécurité de ce double objectif aujourd'hui. Donc évidemment, la question c'est s'ils souhaitent reprendre plus tard, c'est leur libre choix, on est en démocratie. Mais là, de grâce, ne détournons pas les forces de sécurité, les forces de police de leur tâche principale. Strasbourg est attaqué, Strasbourg est meurtri, les Strasbourgeois ont payé le prix du sang. Aujourd'hui, il faut assurer la sécurité et il faut trouver ce malfaiteur, ce terroriste.
Le préfet du Bas-Rhin l'a d'ailleurs rappelé ce matin aux lycéens qui ont tenté Absolument. De manifester dans une commune à côté de Strasbourg.
Merci Alain Fontanel, merci Pierre Bardet d'être venu dans les studios de France Bleu et dans le cadre de ce 13-14 spécial de France Inter. D'autres invités dans une toute petite dizaine de minutes et la chère Céline Rousseau qui reste avec nous jusqu'à 14h. On va regarder les autres titres de l'actualité. Dans ce contexte, les appels lancés aux Gilets jaunes, en effet, à ne pas manifester, qui se multiplient. Le gouvernement, on a entendu le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, ce matin au micro de France Inter, appelé à ne pas manifester. Laurent Berger, pour la CFDT, ne pas surcharger la barque des policiers. Conférence de presse des commerçants toulousains. Ils constatent une baisse de chiffre d'affaires de 40% par rapport à décembre de l'année dernière à cause de ce mouvement. Et ils demandent aux Gilets jaunes d'éviter le centre-ville samedi. Stéphanie Glésis.
Si les clients ne reviennent pas avant les fêtes, ce sont 12 500 emplois qui peuvent disparaître. Philippe Léon a un magasin de stylos et cadeaux.
Il faut que les organisateurs de manifestations, je veux dire, on comprend les problèmes, on est proche des problèmes. Il ne faut pas qu'il y ait un week-end de trop. Et je veux dire, il y a des modalités d'action qui peuvent être différentes que le blocage et l'émeute dans le centre-ville.
Tout le monde souffre en centre-ville. Antoine Nori a un magasin de vêtements et il est catastrophé. Il n'a jamais vu ça.
Mon chiffre d'affaires en décembre, c'est pas compliqué, c'est 35% du chiffre. Voilà, et je suis à moins 70. Donc j'ai déjà perdu sur l'année 20% de mon CA rien que sur 10 jours. Ah ben c'est pas énorme, c'est inédit. C'est un hold-up quoi, on nous a volé notre travail. Les gens ne demandent qu'à revenir seulement. Avec ce qu'ils ont vu à la télé, ce qui s'est passé à Toulouse, il faut avant de venir, il faut qu'ils soient sûrs qu'ils vont venir dans de bonnes conditions, qu'il va rien se passer.
Philippe Jalbi a lui deux magasins de cadeaux, il souligne que tout le monde va y perdre, y compris l'État.
Si cet argent ne rentre pas dans nos caisses, c'est des salaires qu'on pourra peut-être pas payer à nos salariés, c'est des salaires qu'on pourra pas se verser à nous. Ce sont des impôts, des taxes, des charges qu'on ne pourra pas régler, des loyers qu'on aura du mal à régler à nos propriétaires. Mais à partir du moment où on fait 70% de moins de chiffre d'affaires sur samedi dernier, les sous ils rentrent pas.
Les commerçants implorent donc les manifestants d'épargner les quartiers commerçants pour les deux week-ends avant les fêtes. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Inter.
Et politiquement, à qui profite ce mouvement des Gilets jaunes? Un indice, le Rassemblement National, l'ex-Front National, arriverait largement en tête des élections européennes si elles avaient lieu aujourd'hui. 24% d'intention de vote, selon un sondage de l'Institut IFOP, c'est plus 4 points en 2 mois. La liste En Marche perd 2 points, en revanche, à 18%. Donc, à qui profite le mouvement? Maxence Lambrecq, et bien Marine Le Pen.
Au sein même du gouvernement, on le reconnaît, la seule qui gagne des points dans cette crise, c'est Marine Le Pen, m'assure un ministre. Pourquoi? Parce qu'elle parle de cette France des oubliés et du pouvoir d'achat depuis des années. Parce que ses militants sont hyperactifs et très organisés sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle a tout de suite envoyé les bonnes consignes pour ne pas sembler récupérer le mouvement. Avant même la première manif, Marine Le Pen avait demandé à tous ses cadres de rester discrets, de ne pas tracter sur les ronds-points et surtout de ne jamais appeler à la mobilisation dans les médias. Un simple soutien suffit. Et finalement, si on en croit son équipe, l'absence de Marine Le Pen sur les barrages dans les manifs a été perçue par les Gilets jaunes comme une marque de respect.
Si j'ai soutenu les manifestations sans y prendre part, c'est que mon rôle est de proposer une solution politique pour sortir de cette crise.
Alors que Jean-Luc Mélenchon appelle lui à l'insurrection, Marine Le Pen paraît dans cette séquence plus raisonnable, plus sérieuse. Fini les demandes de démission à tout va. Aujourd'hui, par exemple, elle ne réclame pas la tête de Christophe Castaner. Son ancien allié, Nicolas Dupont-Aignan, profite aussi de cette crise des Gilets jaunes. Plus 2,8% d'intention de vote, au coude à coude, avec les écologistes et les insoumis qui ne réuniraient que 9% des voix.
Alors toujours des Gilets jaunes, l'extrême droite qui en profite et des déficits qui se creusent pour financer les mesures. En réponse aux manifestants. Un sommet européen se tient aujourd'hui à Bruxelles. Emmanuel Macron, l'homme qui voulait changer l'Europe il n'y a pas si longtemps, arrive à ce sommet affaibli, Cyril Graziani.
La bienveillance, c'était son maître mot pendant sa campagne. Cette fois, la bienveillance, Emmanuel Macron espère qu'elle viendra de l'Union européenne. Bienveillance teintée même d'une certaine indulgence. Après ces mesures annoncées lundi pour calmer la grogne des Gilets jaunes, le chef de l'État sait qu'immanquablement le budget 2019 va déraper, qu'il ne peut plus être dans les clous de Bruxelles. Il y aura un impact, a reconnu l'Élysée. Alors que l'Italie se délecte des difficultés françaises, autour d'Emmanuel Macron, pas question de commenter les critiques du gouvernement italien sur le coût des mesures annoncées. Pour maintenir ce cap, détaille un conseiller de l'Élysée, il fallait prendre ces mesures car il y avait une urgence. Par ailleurs, Paris récuse les critiques sur une absence de résultats obtenus par Emmanuel Macron dans son ambition de réformer l'UE, l'une des priorités de sa politique, et ses proches de citer le travail détaché, la défense, la taxation du numérique. Un conseiller le résume ainsi, on préférerait aller plus fort et plus vite, mais l'Europe avance toujours par compromis.
Cette information de dernière minute, un tout petit pas vers la paix au Yémen. Ce pays en guerre depuis des années, un des conflits les plus sanglants du moment. Un accord a été trouvé en Suède sur le statut de la ville portuaire qui est clé, la ville portuaire de Hodeïda. L'ONU jouera un rôle clé dans ce port stratégique. En France, quand le rugby tue. Un nouvel accident tragique dans le monde du ballon ovale. 4 mois après la mort d'un jeune d'Aurillac, un joueur de l'équipe espoir du Stade français, Nicolas Chauvin, est mort hier soir après un plaquage en plein match dimanche dernier contre Bordeaux. Victime d'un arrêt cardiaque, ce troisième ligne de 19 ans avait été opéré d'une fracture de la deuxième cervicale. Il n'a pas survécu. Il faut agir vite. Très vite dans contre ces accidents et ces drames dans le rugby, c'est ce que dit le neurochirurgien Jean Chazal.
Ça peut pas continuer comme ça. Personne ne peut conclure autre chose qu'un accident lié à un sport d'une extrême violence et qui tue. Là, ce malheureux a été plaqué, si j'ai bien compris, par 2 joueurs qui lui sont tombés dessus en pleine vitesse. Alors c'est autorisé, donc voilà, ils le mettent en application, mais c'est pas ça le rugby. Donc je crois que par exemple, il faut se poser la question du plaquage à 2 dès maintenant et très vite. Peut-être l'interdire. Et puis, il faut réinstaller des cellules de crise indépendantes qui éduquent ou rééduquent les jeunes joueurs en leur disant « tu vas pas sur le terrain pour massacrer ton adversaire, tu y vas pour l'éviter, pour mener un combat stratégique ». Il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller voir les jeux du cirque où il y a tous des joueurs qui sortent sur des civières. C'est quand même nouveau, ça. Certains anciens rugbymen le disent, osent le dire quand même. C'est un sport qui tue, c'est insupportable. Mais c'est encore fragile, hein. La parole, c'est pas complètement libéré.
Un propos recueilli par Cécilia Arbona. Faut-il développer l'utilisation du cannabis dans un cadre médical? À la demande de l'Agence du médicament, un comité d'experts vient de remettre un rapport et les experts y sont favorables, Véronique Julien.
Autant le dire tout de suite, ce n'est pas pour autoriser le cannabis à fumer que les experts ont donné leur feu vert. Le joint est trop toxique et trop mauvais pour les poumons, le cannabis médical prendra donc d'autres formes. Vaporisation, application cutanée, tisane, gélule, tout ça reste à définir. Le comité composé de 13 experts a passé des semaines en tout cas à auditionner les parties prenantes, notamment les malades, et à faire la synthèse des études déjà sorties sur le sujet. Conclusion, le cannabis peut avoir une réelle utilité pour des soins palliatifs, des cancers, des maladies neurologiques, auto-immunes aussi, comme la sclérose en plaques, pour certains symptômes également, comme les troubles du sommeil. Dans le monde, une 60aine d'États ont déjà légalisé ce cannabis thérapeutique. En France, il était temps, et c'est tant mieux qu'on ouvre enfin la brèche, constate Fabienne Lopez. Elle préside l'association de malades Principe Actif, qui milite depuis des années.
C'est un premier pas encourageant, tout en sachant qu'on a réellement 20 ans de retard. La question se pose de savoir maintenant quels sont les médicaments qui vont pouvoir être mis à disposition.
Justement, après ce feu vert, beaucoup de travail reste à faire car le sujet pose des questions complexes. Quelle variété de cannabis choisir pour traiter quelle pathologie, sous quelle forme? Quel remboursement aussi par la sécurité sociale, sachant que le cannabis pourrait dans certains cas remplacer la prise d'antalgique.
Un restaurant McDonald's de Frontignan dans l'Hérault a été incendié la nuit dernière. Incendie et tag avec cette inscription multinationale et CAC 40 mafia légale. C'est la police judiciaire de Montpellier qui enquête. L'INSEE confirme une tendance déjà connue. Le taux de fécondité baisse en France. Moins de 2 enfants par femme, 1,92, c'est une moyenne évidemment en 2016. Exception, les femmes immigrées, un taux de 2,7. Autre chiffre, l'âge moyen à la naissance des enfants, il est toujours à la hausse, un peu plus de 30 ans en 2016. Une affaire de plus au parfum de guerre froide, ça se passe en Chine. 2 Canadiens détenus, soupçonnés d'activités menaçant la sécurité nationale de la Chine. France Inter à Pékin, Dominique André.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu aujourd'hui aux préoccupations du gouvernement canadien qui s'inquiétait de la disparition en Chine d'un 2e de ses ressortissants. Il s'agit d'un homme d'affaires, Michael Spavor, dont la société est basée à Dandong, la ville frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Ce Canadien est connu pour avoir aidé à la rencontre entre Kim Jong-un et l'ancien basketteur américain Dennis Rodman. Des mesures coercitives, précise le gouvernement chinois, ont été prises contre lui et un ancien diplomate canadien, Michael Kovrig, arrêté lundi, Tous les deux sont soupçonnés d'activités menaçant la sécurité nationale, précise la Chine. Le Global Times, journal qui appartient au Parti communiste chinois, publie aujourd'hui un éditorial avec ce titre « Le Canada peut mettre fin à l'affaire Huawei, mais le veut-il ?» Sur Weibo, seul filtre des commentaires nationalistes sur le thème « On attend la troisième arrestation. C'est vous qui avez commencé, c'est nous qui décidons comment terminer », écrit un internaute. « Canada, tu ne fais pas le poids face à la Chine. » Pékin, Dominique André, France Inter.
Et avant de reprendre notre édition spéciale consacrée à Strasbourg, un tout petit mot de football pour parler de matchs annulés. Marseille-Bordeaux prévu dimanche est reporté. Gilets jaunes, Vigipirate, attentat, les manifestations prévues à Marseille, c'était trop pour la préfecture. Pas de match également reporté. Nantes, Montpellier, Nice, Saint-Étienne et Caen. Toulouse, il est 13h35 sur France Inter. Vous écoutez une édition spéciale de ce journal de 13h. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
France Inter, édition spéciale.
Ensemble jusqu'à 14h à Strasbourg, l'une de nos reporters, Mathilde Dehimy, faisait cette réflexion hier. Une des odeurs de l'époque, c'est celle des bougies. Les bougies lors des veillées après les attentats. Une veillée hier, place Kléber, avec des bougies, avec des fleurs, avec des gens bouleversés.
À la fois, ça complique la situation parce que ça maintient un état de stress.
Non. Est-ce que nous avons les échos de la veillée Place Kléber de ce reportage réalisé par Yann Gallic, que nous retrouverons, peut-être qu'on peut retrouver Yann Gallic en direct du Pont de l'Europe, faute d'avoir la veillée d'hier soir. Est-ce que Yann Gallic est avec nous en direct du Pont de l'Europe? Non plus. Eh ben, vous savez quoi? Nous allons accueillir nos invités. Bonjour, Chantal Cuitajar.
Bonjour.
Deuxième partie de ce plateau, de cette émission spéciale à Strasbourg. Vous êtes adjointe au maire en charge de l'aide aux victimes et de la prévention de la radicalisation. Vous êtes professeur de droit à l'université de Strasbourg, spécialisée dans la criminalité organisée. Question idiote. Dans le cadre que l'on connaît depuis avant-hier à Strasbourg, qu'est-ce qu'une victime, Madame Cuitajar?
Une victime, c'est une personne qui subit un dommage à la suite d'une infraction. Et ce dommage peut être d'ordre psychologique, il peut être d'ordre matériel. Après, il convient, pour que les dispositifs de prise en charge des victimes ou les dispositifs d'indemnisation puissent se déclencher, répondre peut-être à des critères qui sont plus resserrés. Mais pour nous, ici à Strasbourg, une victime, c'est une personne qui a été impactée, qui se ressent...
Définition très large, donc.
Absolument.
Pourquoi choisir cette définition très large? Parce que c'est important que tout le monde puisse être pris en charge, le plus de monde possible puisse être pris en charge.
C'est vraiment très, très, très important qu'on puisse apporter une réponse à toute personne qui, directement, indirectement, de près ou de loin, pense avoir subi un préjudice, pense être impacté. Et c'est la raison pour laquelle, parce que c'est absolument indispensable, si vous voulez, dans le but de résilience. Si on veut avoir une ville qui arrive à se remettre et se remettre le plus rapidement possible, eh bien, il faut apporter une réponse à chacune et à chacun. Et le plus vite possible, arriver à entraîner les personnes dans une dynamique d'action pour pouvoir se sortir effectivement de ce traumatisme.
Un tout petit mot à la régie, le prochain élément qu'on passera, ce sera Dominique Mastelli de la cellule d'urgence psychologique. Céline Rousseau, vous qui êtes rédactrice en chef, quel est le dispositif qui est en place pour prendre en charge les victimes depuis mardi?
Mais il y a effectivement une cellule qui a été mise en place d'abord très rapidement à la Chambre de commerce et d'industrie, donc dans l'hypercentre de Strasbourg, pour prendre en charge les victimes assez rapidement. Et puis maintenant, tout se passe à la Cité de la musique et de la danse à Strasbourg, où sont accueillis toute la journée. Il y a même un numéro qui est mis en place pour la nuit, évidemment, sont accueillis l'ensemble des personnes qui voudraient discuter, qui voudraient témoigner, communiquer, parler, raconter leur histoire, dire leurs difficultés. Elles sont accueillies toute la journée.
Alors, quelques échos, justement. Dominique Mastelli était votre invité ce matin sur France Bleu Alsace, responsable des urgences psychiatriques des hôpitaux de Strasbourg, l'un des animateurs de cette cellule psy. Autour de cette question, le tueur toujours en fuite, est-ce que c'est grave? Écoutez sa réponse.
À la fois, ça complique la situation parce que ça maintient un état de stress, de danger, d'inquiétude, notamment pour les personnes qui sont responsables, de famille, de groupe. Mais aussi, en même temps, ça maintient un état d'hypervigilance. Cette hypervigilance, elle est utile. Elle sert à se préparer au danger. C'est comme si les choses continuaient un petit peu, on reste en garde. Ce qui est très particulier dans cette situation, c'est que c'est au moment où la garde baisse que parfois les symptômes apparaissent. Au moment où on se sent en sécurité, au calme, où on a l'impression que c'est fini, il va être naturel que les choses évoluent normalement. C'est ce qui se passe. C'est si au moment où, dans ce calme, les symptômes réapparaissent, voire même augmentent, c'est là le signe de quelque chose qui doit être absolument pris en charge par des spécialistes.
On continue de parler de cette prise en charge des victimes et de comment une ville peut se réparer. Bonjour Siamak Agababey.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste, vice-président de l'Eurométropole. Vous exercez à l'hôpital civil. Vous étiez de garde, vous étiez à l'hôpital mardi soir.
J'ai été rappelé, en fait, je travaillais toute la journée normalement et puis je suis revenu lors du déclenchement du plan blanc.
Oui.
Et donc j'y suis resté jusqu'à la fin du plan blanc avec l'ensemble des collègues qui étaient mobilisés. Notre site, il n'y a eu...
Céline Rousseau fait tout, elle rapproche même les micros pour que les invités Merci. Parlent confortablement. Merci Céline.
Sur notre site, puisqu'il y a deux sites d'urgence, hein, les urgences de Haute-Pierre et du Nouvel Hôpital Civil, sur le site des urgences du Nouvel Hôpital Civil, il n'y a eu que deux blessés qui sont arrivés. La majorité des blessés, eu égard des spécialités qui étaient présentes, étaient orientées sur Haute-Pierre. Nous, on a eu un blessé en urgence absolue et un blessé en urgence relative. Les deux qui étaient sur notre site sont a priori hors de danger vital. Et ce que je peux dire, c'est que nous avions fait 4 exercices auparavant de plan blanc.
C'est ça, c'est la culture des attentats au fond qui s'installe.
Et on peut se dire qu'on était bien préparé puisque les urgences du Nouvel Hôpital Civil étaient pleines au moment où ça s'est déclenché. C'est-à-dire qu'il y avait 33 patients qui étaient là. Et en une demi-heure, l'ensemble des patients ont été pris en charge par les autres services. Les urgences ont été vidées de sorte à pouvoir accueillir. Donc, s'il y a un point positif, il n'y en a pas dans ce qui vient dans le drame que nous venons de vivre. Mais on peut dire que nos services de secours et de prise en charge fonctionnent correctement.
Je voudrais vous demander quelque chose de difficile. On parlait de culture des attentats. Depuis les attentats du 11 septembre, puis le Bataclan, une façon de résister, c'est de parler en détail, de raconter les vies des gens simples, des gens inconnus jusque-là, qui ont été victimes. Il se trouve que vous avez un proche qui a été touché, qui est entre la vie et la mort. Est-ce que vous voulez nous dire 2-3 mots de cette personne? Pas par voyeurisme, mais il est toujours là.
Je connais effectivement cette personne pour qui on est beaucoup à Strasbourg à avoir une pensée actuellement depuis qu'on a appris qu'il était entre la vie et la mort. Et puis finalement, parce que quand on parle des attentats, on pense que ça concerne toujours quelqu'un d'autre. On est toujours distant. Et puis quand ça touche quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, avec qui on a discuté, là on voit que c'est quelque chose à partir d'aujourd'hui qui peut toucher tout le monde. Et donc ça fait partie aujourd'hui de notre vie. Et puis ça amène aussi à nous interroger. Et je pense que la personne à qui je pense aurait aimé qu'on ait cette réflexion, à nous interroger de comment on vit avec. Comment ça se passe le lendemain? Est-ce que c'est la peur au ventre? Est-ce que c'est tous les débats qu'on voit poindre, sécurité versus liberté qui vont? Comment on fait avec tout ça? Et comment on continue à être ce que nous avons été, à vivre les vies que nous vivions avec plus ou moins de bonheur? Comment on fait ça?
Et un mot, vous nous le disiez quand on préparait l'émission, il y a quelque chose qui passe pas chez vous. C'est le fait que le tueur vienne de la ville.
C'est une vraie question à se poser parce que c'est pas on parle de guerre contre la terreur, mais la personne, l'assassin habitait à Strasbourg. Donc on est amené à s'interroger sur qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce qui va pas de quelqu'un qui a grandi dans cette ville, qui a eu des souvenirs dans cette ville, comment sur la place Kléber qui évoque tant de souvenirs pour tant d'entre nous. Comment on peut tuer d'autres personnes de cette même ville? Donc il y a quelque chose au-delà des questions de sécurité, ce que je disais, il faut qu'on s'interroge, qu'est-ce qui produit ça? Et j'ai pas de réponse toute faite.
Et c'est un vrai tabou, je le dis moi qui ne suis pas alsacien, c'est un vrai tabou en Alsace, cette question-là.
Je sais pas si c'est un vrai tabou, mais on pourra pas se faire l'économie, je veux dire, on traitera pas ces questions-là simplement avec plus de sécurité. Bien sûr qu'il le faut, mais il faut aller au fond des choses.
Qu'est-ce qui se dit à la cellule psychologique? Yann Gallic a rencontré Aïcha et sa famille.
On a tout de suite été pris en charge par un cadre de santé, une psychologue et un médecin. Moi, j'ai ma fille qui a été traumatisée, qui s'est dit on a échappé à la mort. Elle a fait des cauchemars cette nuit. Elle en a parlé au psychologue. Ils avaient besoin de parler, mes enfants, en fait.
À côté du marché de Noël, on a senti le feu. Il y avait des coups de feu.
Et vous avez eu peur à ce moment-là, quand il a fallu vous cacher?
Oui, on a eu très très peur même.
Dans un premier temps, on croit que c'est pas vrai. Le matin, quand on se réveille, on voit que c'est vraiment passé. On pense que ça arrive que chez les autres. Et au final, ça nous arrive à nous aussi. Et on se dit qu'on est exposé au danger, quoi. On peut pas se promener tranquillement maintenant.
Voilà pour ce témoignage recueilli par Yann Gallic. Céline Rousseau, il faut revenir sur ce chiffre qui circule, qui a été donné par un préfet et qui raconte la mauvaise réputation de Strasbourg. 10% des fichiers S en France seraient dans le coin ?
Seraient dans le Bas-Rhin, précisément. Voilà. C'est un chiffre qui a été donné lors d'une conférence de presse du préfet il y a un an à peu près. Alors un chiffre, 10%, ça veut tout et rien dire. Ça semble énorme, en tout cas, effectivement. On sait qu'à Strasbourg... Est-ce qu'on peut dire que Strasbourg est une ville terreau du terrorisme? C'est compliqué de dire ça comme ça.
Qu'est-ce que vous en dites, Madame Cutajar?
Moi, je dis qu'elle n'est pas plus une ville du terreau du terrorisme que n'a pu l'être Toulouse ou d'autres villes qui, effectivement, ont des réseaux de personnes radicalisées. On ne peut pas nier la vérité. En même temps, ça n'est pas une ville qui est le terreau du terrorisme. Je crois qu'il il faut quand même, sur ces questions, raison garder. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons au quotidien, cette mobilisation que nous avons dans un cadre partenarial, puisque nous sommes persuadés que chacun seul, isolé, n'a pas la solution, mais que en revanche, c'est ensemble que nous la trouverons. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au lendemain des attentats du Bataclan, le maire de Strasbourg a souhaité confier une délégation prévention de la radicalisation à un adjoint. Et d'ailleurs, c'est aussi au même moment où le maire a souhaité mettre en place une délégation à l'aide aux victimes en cas d'acte terroriste.
Notamment parce qu'il faut quand même le rappeler, au Bataclan, l'un des terroristes était originaire de ce qu'on a appelé la filière de la Méno.
Absolument.
Où plusieurs personnes ont été interpellées suite à leur départ et leur retour ensuite de Syrie. Il se trouve que le terroriste en question, lui, n'avait pas été interpellé, a pu revenir en France et donc faire partie de cette attaque du Bataclan.
Alors, prévention de la radicalisation, comment s'y prend-on, Madame Cutajar? On identifie d'abord, on signale, comment fait-on?
Il y a, dans le cadre d'une, enfin, la politique que nous menons, oui, elle est en deux directions. Il y a un axe détection et transmission des alertes, et puis un axe prévention, agir sur les causes profondes de la radicalisation. Il est évident que le discours conspirationniste, que le discours complotiste, c'est une porte ouverte à la radicalisation qui peut devenir violente. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place des partenariats avec l'éducation nationale, que nous travaillons en lien avec les clubs sportifs, nous agissons dans ces deux directions. Donc la phase identification, détection, transmission de l'information, nous avons un chargé de mission qui a été recruté et dont l'une des missions est effectivement de recueillir ces informations, de les transmettre après à la cellule prévention de la radicalisation.
Ça veut dire en ce moment éplucher les réseaux sociaux, par exemple, vous parliez de complotisme.
C'est pas à nous d'éplucher les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut être très clair dans la répartition des compétences. Nous, notre mission, c'est de former l'ensemble des agents, de former toutes celles et ceux qui peuvent être en lien avec des comportements qui peuvent questionner. Il ne s'agit pas de dire c'est de la radicalisation.
Il s'agit de dire là, il y a un souci, il y a une question.
Il y a un souci, je fais remonter l'information et l'information, elle est après. Ensuite, elle est traitée avec des spécialistes qui savent comment la gérer et comment donner une réponse.
Avant de donner la parole à Thomas Joly qui nous racontera sa soirée de mardi, est-ce que peuvent faire les acteurs, les metteurs en scène, les artistes dans le contexte actuel? Mathilde Emy, vous êtes à nouveau avec nous. Reportage ce matin dans l'agglomération strasbourgeoise.
Oui, parole d'habitants d'un quartier défavorisé, les écrivains à Bischheim-Schiltigheim, dans l'agglomération donc de Strasbourg, qui attendent une grande rénovation urbaine. On retrouve finalement dans ce quartier les mêmes témoignages qu'ailleurs depuis mardi soir. Il y a ceux qui continuent leur vie comme Nordine.
Comme d'habitude, normal. Je sors, je fais mes courses, et voilà. Ça va pas arrêter là, comme on dit.
Et
voilà.
Ceux plus stressés comme Claudia.
On a toujours une peur quelque part, malgré qu'on est hors Strasbourg, quoi. Comme ils ne l'ont pas retrouvé, on a quand même acquis quelque part. On n'est pas tranquille.
On a croisé également Arthur, 16 ans, qui a mal à son Strasbourg.
J'ai grandi ici, à Strasbourg. Et je traîne la moitié du temps en ville. Alors, et deux heures avant, mais j'y étais. Alors ça aurait pu être moi ou un de mes potes. Et ma mère aussi a travaillé là-bas.
Catherine Carteni de l'association Jeep, qui s'occupe des jeunes en difficulté au Neuhof, au Marais, dans le quartier des Écrivains, donc, travaille parfois aussi avec des jeunes radicalisés, notamment en prison. Elle va proposer demain après-midi aux habitants des Écrivains un temps de parole.
La parole est extrêmement importante pour permettre aux gens effectivement de pouvoir parler, de pouvoir garder le silence et de pouvoir lire un texte, un poème, de pouvoir effectivement, on n'en fera pas forcément le deuil de ce qui s'est passé, mais en tout cas on aura l'occasion de pouvoir en parler, d'exprimer voilà, les craintes, les peurs et peut-être aussi une rage de vivre, quoi.
Un moment pour dire, poser les mots que l'association avait déjà organisé après les attentats du Bataclan.
Réaction à ce qu'on vient d'entendre les uns les autres, ces mots qui viennent d'être prononcés dans le reportage de Mathilde. Comment, là, en ce moment, il faut parler, il faut organiser beaucoup de choses.
Absolument. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que nous avons ouvert un centre d'accueil des familles et des victimes. Il se situe rue Place Dauphine, dans la Cité de la Musique et de la Danse. Il faut vraiment que toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, se sentent en difficulté, que ce soit psychologiquement ou d'ordre matériel, il faut absolument qu'elles viennent dans ce centre, à l'exclusion de tout autre. Il y a là réunis les autorités de police, de justice, des psychologues, des associations d'aide aux victimes, c'est-à-dire que nous avons la réponse à tous les problèmes, ou en tout cas une mobilisation générale pour apporter les réponses à tous les problèmes.
Siama Kagababay, il faut organiser des réunions, là en ce moment, dans les quartiers, pour éviter que le climat s'alourdisse.
Non seulement il faut organiser des réunions, mais il va falloir un plan d'urgence sur nos quartiers. Alors, il y a l'ANRU, certes, mais il faut un plan d'urgence à l'échelle nationale. Mmh. Notre ville est une ville qui a un taux de pauvreté de 25%. On est la première agglomération en France la plus inégalitaire.
Oui, donc c'est pas des réunions aussi c'est pleines pas, de bonne volonté fustelles qui vont changer.
Il faut de la parole, oui. Mais il faut aussi s'attaquer aux causes des inégalités sociales qui sont tout aussi importantes.
Bonjour Thomas Joly.
Bonjour.
Merci d'avoir attendu si longtemps. Metteur en scène associé au Théâtre National de Strasbourg, comédien. Racontez-nous la soirée de mardi soir au Théâtre National de Strasbourg.
Bien, nous jouions Thieste de Sénèque, une pièce qui parle justement d'un homme qui sort de l'humanité, qui commet un acte sanglant, justement. Et à 20h10, puisque le théâtre commence toujours un peu en retard, le spectacle démarre et au cours de la représentation, on apprend que quelque chose se passe dans Strasbourg, que cette attaque a lieu. On ne comprend pas très bien. Je vois avec la direction qu'est-ce qu'on peut faire. La direction ferme les portes du théâtre. Tout le monde est confiné dans le théâtre. Ils nous disent de jouer, de continuer à jouer. Donc nous continuons à jouer. On voit que dans la salle, les portables s'allument. On sent que ça frétille, mais on se dit bon, allons jusqu'au bout du geste. De toute façon, nous sommes enfermés dans ce théâtre sans savoir très bien ce qui se passe. Au moins, entre guillemets, nous sommes en sécurité. Alors ça peut paraître un peu dérisoire de le dire, et moi-même, ça m'a paru dérisoire de me dire pourquoi jouer alors que une œuvre de fiction, alors que à 500 mètres d'ici, la réalité est aussi brutale que ce que nous sommes en train de raconter et qui est fictionnelle. Et puis en fait, à la fin du spectacle, nous n'avons pas salué parce que ça nous semblait inapproprié, évidemment. Mais, pardon, j'en suis encore un peu ému, le fait d'être... le théâtre a toujours été un art refuge de la pensée, de l'altérité, refuge pour la circulation de l'intelligence, des idées, etc. Là, tout à coup, le Théâtre National de Strasbourg est devenu le refuge très concret de ça. Nous sommes restés jusqu'à 3h du matin avec les spectateurs, les spectatrices, nous avons parlé, les yeux embués, nous avons échangé, nous avons improvisé des petites visites du décor en attendant que les portes puissent s'ouvrir et que les gens puissent regagner leur maison. Et tout à coup, on se dit que oui, on a besoin d'être ensemble. Alors bien sûr, il faut faire des réunions et bien sûr, il faut se parler. Il faut, d'ailleurs, on le voit, ce besoin-là immédiat de se retrouver ensemble. Mais peut-être aussi, et vous me posiez la question tout à l'heure, à quoi peuvent servir les acteurs, à quoi peuvent servir les metteurs en scène, le théâtre, la culture.
À quoi sert un artiste dans ce cadre-là?
À quoi sert un artiste? Alors bien sûr, nous jouons et le fait d'être réunis dans un théâtre pour entendre cette parole qui date de 20 siècles et qui pourtant résonne très fortement, bien sûr, ça a une importance. Mais on parle de nous, les acteurs, surtout quand on fait des spectacles, dans les TNS ou les grands théâtres, etc. Mais nous sommes au quotidien sur les territoires. 2000 compagnies émaillent ce territoire français qui sont au plus près des gens dans les milieux ruraux, dans les banlieues, dans les centres-villes, partout. C'est une armée culturelle, une armée d'acteurs, d'actrices qui jouent avec les mots, transmettent aussi ces outils de formulation, d'aisance, de rapport à l'autre, de bienveillance. Peut-être qu'une grande politique culturelle ambitieuse, pas seulement sur les créations, mais aussi sur l'action culturelle, sur... la culture comme ciment sociétal, peut-être, est à appeler de nos voeux.
Vous jouez ce soir?
Nous jouons ce soir. Nous avons respecté le deuil de la ville hier soir, évidemment. Nous avons participé. Mais nous jouons ce soir parce que nous pensons que c'est important de réouvrir les portes, de continuer à accueillir les spectateurs, les spectatrices. Ça passe aussi par ce texte, encore une fois, ce soir. Ce texte, mais d'autres, pas que... Là, il se trouve que le rapprochement est un peu troublant. Oui. Mais Sénèque a des choses à nous dire, à nous éclairer aussi sur ce qu'on vit.
La technique permet de mettre l'émotion à distance, parce que là vous prenez la parole, il y a une bouffée d'émotion monstrueuse. La technique permet de mettre l'émotion à distance, on fait le job.
Ouais, on me fait le job, mais je vous le dis, il y a quelque chose qui... Alors, ce qui est fou d'ailleurs, c'est que nous, on se sent pas du tout techniquement prêt. Enfin, on se sent pas du tout à notre place. Mais les spectateurs n'y voient goutte. Puisque nous, on n'avait rien vu, etc. Bon, bah nous, on savait qu'on n'était pas tout à fait au job, mais voilà, l'illusion théâtrale a fonctionné. Enfin, c'était pas l'idée de divertir les gens et de faire diversion, mais c'était l'idée surtout de continuer à dire ces mots-là.
Céline, qu'est-ce qui rouvre aujourd'hui toutes les salles de spectacle?
L'ensemble des salles de spectacle. Pour appuyer un peu le témoignage de Thomas, ce qui s'est passé aussi mardi soir, il y avait un autre regroupement, un autre spectacle sportif, celui-ci. C'était à la SIG, le basket. Voilà, il y avait un match. Hein. 5000 personnes qui étaient coincées dans la salle, le Rhenus à Strasbourg, qui sont restées confinées très très longtemps. Et alors bon, les joueurs de basket se sont mis à faire le show pour détendre un peu l'atmosphère, parce que là aussi, les gens avaient les infos par les réseaux sociaux, via leur téléphone portable, sachant qu'après, quand on est dans une salle de basket comme ça, tous ensemble, les réseaux ne fonctionnent plus, donc on n'a pas assez d'infos, donc on s'inquiète, les gens ont commencé un peu à s'énerver. Alors un joueur de basket s'est mis à chanter Petit Papa Noël. Et puis après, tous ensemble, ils ont entonné la Marseillaise. Et ça a été très marquant. Ouais. Beaucoup d'émotions, évidemment, voilà, ce soir.
Merci à tous d'être venus dans les studios de France Bleu pour cette émission de France Inter. Je voudrais qu'on termine peut-être, avant d'entendre Yann Gallic en direct, avec ces mots d'hommage lors de la veillée hier, Place Kléber. Est-ce qu'on a ce reportage? Écoutons les paroles.
L'événement est assez dramatique, donc en tant que strasbourgeoise, c'était important de venir pour marquer une solidarité. On a toujours l'impression que ça arrive ailleurs et pas ici, donc voilà, maintenant c'est arrivé.
C'est une forme de sidération quand même.
Une tristesse et une consternation.
Je trouve ça ignoble ce qui s'est encore passé ici. Il y en a assez de ce genre de bêtises, c'est affreux. Au nom de quoi ils se permettent de tuer des innocents qui n'ont rien fait? C'est insupportable.
On se recueille, on pense aux victimes et à leurs familles. Mais autrement, il y a quand même une très grande colère. Il y a un gros problème. Depuis qu'il y a eu des attentats, toujours, il y a eu des gens qui étaient fichés S. On le sait. Donc, quand il y a des perquisitions, il faut les faire avant. Il ne faut pas les laisser courir comme ça dans la nature. On le sait, ils sont connus, ils sont identifiés. Donc, à un moment, il y a un problème. Il faut quand même prendre les choses en main pour que cette radicalisation cesse.
Voilà pour ces paroles recueillies par Yann Gallic hier. Yann qu'on retrouve, puisque nos reporters, depuis deux jours, ils sillonnent vraiment la ville dans tous les sens. Yann, vous êtes au pont de l'Europe à présent. Est-ce que vous êtes au bout du fil, au bout du satellite?
Je suis là, Bruno.
Le pont de l'Europe pour mesurer au fond les mesures de sécurité et le climat aussi, parce que c'est celui qui fait le lien entre la France et l'Allemagne. C'est très difficile de passer, c'est même l'enfer, non?
En effet, une longue file de camions et de voitures s'étend sur les rives du Rhin. Il faut attendre plusieurs heures pour franchir ce pont qui relie Strasbourg à Kiel en Allemagne. Les policiers français et allemands ont mis en place des barrages filtrant les coffres des véhicules et les chargements des poids lourds sont systématiquement fouillés. Les travailleurs frontaliers se soumettent volontiers à ces contrôles renforcés.
Depuis 8 heures, je devrais être au boulot.
Ça fait plus de 3 heures maintenant que vous vous attendez.
Bah oui, puis ça bouge pas. Voilà. C'est sûr, ce qui s'est passé, il faut du contrôle. Hein.
Vous allez travailler en Allemagne?
Oui, c'est ça, exactement. Et bon, ça passe d'habitude bien. Sauf que là, maintenant, exceptionnellement, c'est un peu dur, quoi. Et il y a pas mal de temps encore à attendre. Mais on le prend avec philosophie.
Des centaines d'hommes lourdement armés ont été déployés le long de la frontière du côté allemand. Même à la descente du tramway, les voyageurs sont brièvement contrôlés.
Je crois que dans ces moments, il faut prendre sur soi et relativiser. Ça nous touche de voir notre ville comme ça, dans cet état-là. Après, voilà, la vie continue. C'est vraiment ça la leçon.
Le fait que le terroriste présumé soit toujours en cavale, ça vous inquiète? Ça crée une ambiance un peu bizarre quand même, hein, ici.
Peut-être qu'il est déjà sorti du territoire, peut-être qu'il est encore sur place. C'est vrai qu'on n'a aucune information. Et c'est vrai que ça augmente un peu l'anxiété.
Et ce dispositif de sécurité exceptionnel devrait être maintenu jusqu'à ce que l'auteur de la fusillade de Strasbourg soit arrêté.
Voilà pour ce reportage de Yann Gallic sur le pont de l'Europe, 13h58 sur France Inter. Dans 2 minutes, le flash de 14h. Je voudrais dire un grand merci à tous les invités qui sont venus dans ce studio. Un grand merci aux équipes de France Bleu Alsace. Merci Céline Rousseau. Merci les techniciens derrière la vitre. Merci aux équipes de France Inter et aux deux qui m'ont accompagné, Anaïs Feuga et Mathilde Méclat. Le flash à 14h, les émissions spéciales, les reportages qui continuent et puis... la météo peut-être? Est-ce qu'on a le temps de passer la météo? Allez, on y va.
La météo, avec les dindes fermières de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Jean-Pierre Hameau.
Les températures sont toujours très contrastées entre le nord et le sud. Prévoyez 0 à 6 degrés sur une large moitié nord. N'attendez pas plus de 1 degré au maximum cet après-midi à Metz, 2 à Nancy, 3 à Paris, Rennes, Dijon, Lille et Lyon, 4 à Bourges, 6 à Brest. En allant vers le sud et le sud-ouest, les maximales seront plus douces et comprises entre 7 et 14 degrés, avec 7 degrés à Limoges, 8 à Toulouse, 9 à Bordeaux et Tarbes, 11 à Marseille, 12 à Toulon et 14 degrés à Ajaccio. Côté ciel, nous allons retrouver une perturbation sur tout le flanc ouest avec des pluies faibles du Finistère à la région Poitou-Charentes. Les pluies seront plus marquées de l'Aquitaine au Languedoc-Roussillon et jusque vers la région PACA. Prévoyez encore beaucoup de grisailles près des frontières du Nord-Est et du soleil partout ailleurs.